Salut à tous, je suis Victoria Guillaumont, j'ai 22 ans, et je vous souhaite la bienvenue sur Nouvel Œil. J'avais envie de partager quelques prises de recul à un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, dans un monde de plus en plus incertain. Un monde où les réseaux sociaux sont omniprésents, où les informations viennent dans tous les sens, et où trouver sa place est souvent une belle épreuve du combattant. Alors je pars à la rencontre de personnalités et de personnes inspirantes qui se sont posées il y a quelques années les questions que nous, on se pose aujourd'hui. Ces personnes qui, de près ou de loin, ont rêvé, ont osé, ont expérimenté et qui ont de jolis messages à nous transmettre pour nous aider à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Parce que tous, on a besoin de conseils, d'inspiration et de vagues d'espoir auxquelles se raccrocher. Alors le temps d'une trentaine de minutes, je vous invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour vous recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui vous êtes pour vous aider à trouver votre chemin et surtout à oser.
Comprendre ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Souvent, quand t'es jeune, tu sais pas forcément ce que t'as envie de faire. Et le plus difficile, c'est de se dire qu'est-ce qui me rend heureux dans mon quotidien. Dans ton quotidien, les choses doivent pas être compliquées. Ça doit pas être dur. Si c'est dur, c'est qu'en fait, c'est pas naturel. Donc en fait, faut trouver là où c'est fluide. Et là où c'est fluide, c'est là où ça te fait du bien. Donc en fait, déjà, éliminer tout ce qui te fait pas du bien. Et donc du coup, dire déjà tout ce que tu n'aimes pas, ça permet d'éliminer plein de trucs et de t'orienter plus vers ce que tu aimes. Et une fois que tu as pointé le doigt sur ce qui te fait kiffer, vraiment, que tu aimes faire et tu pourrais faire ça jour et nuit, tout le temps, et ça te rendrait heureux, réussir à atteindre l'objectif, que ce soit ton job qui te fait vivre, en fait. Et pour moi, la réussite, c'est ça, c'est de dire « je fais ce qui me rend heureux tous les jours ».
À un âge où l'on se pose beaucoup de questions sur notre avenir professionnel, où l'on a parfois tendance à refouler qui nous sommes pour répondre aux attentes de la société. À cet âge où tout se chamboule un peu, où on a l'impression d'avoir à faire les choix les plus importants de notre vie, où l'on a des doutes et des craintes sur le futur. À 24 ans, Irène a pris le parti de laisser ses peurs de côté et d'écouter son intuition en se lançant à 100% sur son projet de Paulette. Paulette, un magazine qu'elle veut différent et indépendant pour répondre aux attentes d'une génération qui ne se retrouve pas toujours dans la presse féminine. Avec ses mots, Irène rassure et motive. Elle nous confie que l'instinct ne se trompe jamais et qu'il faut apprendre à l'écouter lorsque nos choix s'avèrent difficiles à prendre. Pour elle, il n'y a pas de hasard, jamais. Elle croit pertinemment que lorsque nous sommes dans l'action, dans le mouvement, les choses se dessinent, souvent d'une manière différente que celle que l'on avait imaginée, mais les choses se font. Et que finalement, accepter de ne pas tout contrôler, de laisser la vie nous emporter vers l'inconnu et les imprévus, nous ouvre de bien jolies portes. Dans cet échange, Irène insiste sur l'importance de développer notre intuition et notre confiance en la vie. On parle d'être et de paraître, d'échecs, de projections sur le futur, de l'importance de relativiser, de notre rapport au travail en France, et de plein d'autres sujets passionnants que je vous laisse découvrir. Salut Irène!
Salut.
Merci de me consacrer un peu de ton temps et de m'accueillir dans les magnifiques locaux de chez Paulette. Comme pour tous mes invités, je vais commencer par une question, une des questions les plus difficiles, je pense, qui est de te présenter personnellement.
Ok. Alors, je m'appelle Irène, j'ai 35 ans, j'ai grandi en région parisienne, je suis entrepreneur depuis mes 23 ans et donc je suis à la tête d'un magazine féminin qui s'appelle Paulette. Je suis également cofondatrice depuis un an et demi d'un collectif ésotérique et spirituel qui s'appelle Eso Paris. Et là, j'ouvre et je lance un lieu holistique à Paris qui s'appelle 11h11 à partir du mois de septembre autour du bien-être et des énergies.
Trop génial. Pour mieux comprendre qui tu es et comment tu en es venue à faire ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler de ton enfance ?
Alors, moi j'ai grandi en banlieue parisienne, je suis issue d'une double culture, j'ai grandi avec ma maman et mon petit frère, ma mère est turque, elle est venue en France après s'être mariée en Turquie avec mon père qui est franco-polonais, et ils se sont séparés assez rapidement, et du coup j'ai grandi avec ma maman, donc dans une double culture, j'ai appris le turc en même temps que le français, j'ai la double nationalité, je me sens très proche de mes racines turques, et j'ai fait un parcours... scolaire, bac STIR appliqué, donc un bac où tu fais du design, de la mode, enfin qui est un bac que tu trouves dans les lycées où il y a aussi du STT, des trucs comme ça. Et ensuite, j'ai fait une école d'art appliqué publique à Paris qui s'appelle Olivier de Serres, où là j'ai fait un BTS communication visuelle. Et ensuite, j'ai commencé à bosser comme directrice artistique en agence de publicité. Et un peu en freelance, et puis un peu de graphisme aussi. Et très rapidement, j'ai lancé mon média, donc Épaulette, sachant que depuis le collège, c'était une jeune femme déjà très engagée. En fait, j'ai toujours été entourée de femmes fortes. Donc ma mère, première personne, et ensuite toute ma famille en Turquie, il y a beaucoup de femmes, et des femmes de caractère, finalement peu d'hommes. et puis beaucoup d'hommes que j'ai pu croiser avaient un esprit un peu misogyne et tout. Donc pas du tout en Turquie, mais je veux dire de manière générale. Donc du coup, l'injustice, j'en ai été témoin sur la... En tant que femme, comme toutes les femmes, on subit la misogynie assez tôt, parce qu'elle est ancrée finalement dans notre société de manière très naturelle. Et puis ensuite, ayant beaucoup d'amis racisés, j'ai pu être témoin aussi d'actes racistes ou de choses comme ça qui m'ont aussi moi-même marqué, parce que j'étais ici de double culture, mais moi je le subissais pas parce que je suis blanche. Et du coup, mon engagement, il était en moi depuis toujours, en fin de compte. Et c'est vrai que quand l'idée de Paulette, elle est arrivée assez jeune, parce que je me suis dit, mais c'est pas normal qu'il y ait pas de magazine dans les kiosques qui représente ma génération, où les visages y sont différents, où tout le monde n'est pas blanc, blonde, et fait du 36, et grande, et où on peut y avoir une diversité de représentations. Et puis en plus, je suis quelqu'un qui a toujours été très ouvert d'esprit, donc, tu vois, je juge pas, chacun... fait ce qu'il veut, à ses histoires, à ses choix. Et c'est vrai que je trouvais que la presse féminine n'était pas très bienveillante à l'égard des femmes, très dans le jugement, très à vouloir nous mettre dans des cases. Et du coup, je me disais, ce serait trop cool d'avoir un magazine qui te parle de trucs, de sujets que t'oses pas aborder, genre le fait de pas vouloir être mère, ou bien des syndromes prémenstruels, des règles. C'était des choses qu'on n'abordait pas du tout à l'époque, parce que c'était quand même il y a 11 ans, enfin plus de 11 ans, parce que quand j'étais au collège, c'était même 15, 16, 17, 18 ans. Enfin, ça fait un moment, quoi. Donc, je rappelle que j'ai 35 ans. Et donc, du coup, c'est vrai que cette envie, elle est restée dans ma tête, dans un coin de ma tête. Et puis, quand j'ai commencé à évoluer dans la publicité, très vite, c'est toutes les valeurs que je défendais. J'étais pas alignée, quoi. Enfin, on était vraiment dans les clichés de ce qu'est l'agence de pub, avec tous ses travers vis-à-vis de la femme. Et donc, je me suis dit, vas-y, j'y vais, c'est maintenant ou jamais. Et puis, l'histoire de Paulette qui est longue.
Ouais, mais voilà. Longue. Et quand tu étais petite, quels étaient tes rêves?
J'arrive pas à me rappeler. Tout ce que je sais, c'est que j'ai une grande sensibilité artistique dès le plus jeune âge, très créative. J'organisais des spectacles de danse avec mes petites cousines, alors que je faisais pas du tout de danse, mais dans le côté organisation, mise en place de choses, très dans les prises d'initiative. Je dessinais beaucoup, je dessine très mal, mais très créative, quoi. Donc, je sais que quand j'ai été au collège, à un moment donné, je regardais une série qui s'appelait Melrose Place, et j'avais vu Amanda Woodward, qui était une femme de caractère, qui gérait la direction de création d'une agence de pub. Je me suis dit, j'aimerais trop faire comme elle et tout. Bah, j'ai presque fait, parce que j'étais DA. Et puis là, je gère la direction de création du magazine aussi. Du coup, d'une certaine façon, je les check. Après, au début, je voulais être avocate pour défendre les autres, parce que j'avais l'impression que c'était ça. C'est un peu plus compliqué que ça. Je me suis rendu compte des années d'études. J'ai fait genre, oh non. Donc voilà. Donc je pense, j'arrive pas à me rappeler toute petite, ouais. Mais je sais que sensible, empathique envers les autres et créative. Et aujourd'hui, c'est ce que j'exprime au travers de mon activité, donc c'est aligné, quoi.
Et quand tu avais 20 ans, elle ressemblait à quoi, ta vie ?
20 ans, alors 20 ans, j'étais en première année de BTS, ouais. Parce que j'ai redoublé le bac. Ma vie, elle ressemblait à quoi ? C'était hyper dense en termes de charge de travail, ce diplôme. Donc, je peignais des trucs, on avait plein de projets artistiques. J'avais une bourse pour faire ces études, parce que ma mère avait pas les moyens de payer les charges que ça... Alors, l'école est publique et gratuite, mais par contre, c'est énormément de frais quand tu fais une école d'art, d'acheter beaucoup de matériel et tout. Donc, du coup, la chance que j'avais, c'est que... Ouais, j'avais cette bourse. Du coup, on faisait plein de trucs, très créatifs, beaucoup de boulot. J'étais déjà en couple à l'époque, donc je sortais et tout, mais j'avais mon petit copain. À 20 ans, j'étais pleine d'espoir dans l'expérimentation artistique. très positif. C'était très intéressant parce que j'étais dans une école où il y avait pas beaucoup de gens qui venaient de banlieue parisienne, beaucoup de gens qui venaient de province finalement, ou des Parisiens. Et du coup, ça m'a permis de rencontrer des gens qui étaient pas le genre de personnes que je croisais d'habitude au lycée, au collège, qui étaient pas sur le profil de mes amis d'avant. Et du coup, ça m'a vachement ouvert l'esprit sur des mondes différents. C'était hyper intéressant. Donc non, 20 ans, j'étais dans l'exploration de qui je dois être assez curieuse, optimiste, enfin ouais, bien.
Bien. Où es-tu allée cultiver l'audace pour oser te lancer à 23 ans?
Bah, je pense dans mon âge. C'est-à-dire que je trouve que c'est des âges où t'as pas trop peur, parce que tu développes pas la culture de la peur à cet âge-là, je trouve. Enfin, en tout cas, il y a un côté comme ça, tu te sens capable de tout, t'as pas peur de la mort. Enfin, tu vois, genre, tu peux être dans une voiture qui roule super vite, t'as pas peur de mourir. Enfin, c'est des trucs. En vieillissant, la peur, ça arrive plus, je trouve. Mm-hmm. Alors que quand t'es jeune, tu l'as pas. Et c'est pour ça que je conseille aux gens d'entreprendre jeune, parce qu'au moins, ils se font pas bouffer par la peur. Sauf s'ils manquent de confiance en eux. Évidemment, ça, c'est encore un autre élément. Et qui sont, de base, vraiment pas du tout confiance. Moi, la chance que j'avais, c'est que j'avais de la confiance en moi. Parce que j'avais été élevée pour être une fille qui a confiance en elle. J'étais l'aînée avec mon petit frère. Ma mère était une femme forte, donc ça m'avait donné l'exemple de me dire que bah je pouvais l'être aussi. Et du coup, je m'étais dit, en fait, j'ai rien à perdre, quoi. C'est-à-dire, au pire, ça marche pas. Je suis jeune, je peux me trouver un job. Je sais que j'ai une tête bien faite. J'ai pas d'enfants, j'ai pas de d'appart. Je vis chez ma mère. Enfin, tu vois. En fait, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Enfin, rien, quoi. En plus, je me lançais, j'avais pas d'argent, donc je me lançais de zéro. Donc, en fait, je n'ai absolument rien à perdre. Donc, en fait, celui qui a peur quand il a rien à perdre, c'est il se crée un faux truc, quoi. Enfin, c'est quand tu mets tout sur la table et que tu te dis, alors, j'ai une vie de famille, j'abandonne un job, j'ai deux enfants à nourrir, je suis toute seule, je suis une mère au foyer, j'ai un prêt sur le dos et je crée ma boîte. Ça fait plus flipper que j'ai 23 ans, j'ai la vie devant moi et j'ai ma mère qui peut me loger, nourrir et je peux monter ma boîte. Enfin, évidemment que t'as pas peur, en fait.
Et quelles sont les plus grandes difficultés que tu as pu rencontrer pendant le développement de Paulette?
Bon, il y en a eu tellement, énormément, comme dans tout projet entrepreneurial, crescendo en fonction du projet qui grossit. Au début, c'est le fait de pas avoir du tout de moyens. T'as l'impression que tu peux rien faire, mais en fait, tu te débrouilles et tu fais. Ensuite, c'est le fait d'être méga jeune et du coup, d'avoir des gens qui travaillent pour toi, qui ont le même âge que toi. Donc, c'est de faire la part des choses entre... c'est pas ma copine, mais c'est quand même ma copine, mais elle travaille pour moi, donc je dois réussir à faire du management tout en étant amie. Enfin, c'est hyper difficile. Et après, tu prends de la distance avec les gens qui travaillent pour toi pour pouvoir être le plus juste possible et pas te laisser happer par les sentiments. Ensuite, c'est quand tu commences à avoir tes premières pressions de dire il faut que je fasse rentrer du chiffre, mais j'y arrive pas. Moi, j'étais sur un marché, le marché de la presse et des médias, qui est très difficile. C'est pas tu vas pas dans cette industrie-là pour faire fortune. Tu vas parce que t'es passionné, que t'as envie de défendre un message et que tu te dis si j'arrive à en vivre déjà, c'est un exploit, quoi. Tu sais, aujourd'hui, il y a des secteurs sur lesquels tu te lances où tu sais que tu vas faire une cash machine en termes de rentabilité et d'entrepreneuriat. Le monde du média, c'est pas du tout ça. T'y vas parce que c'est vraiment une passion et le but, c'est déjà d'en vivre, quoi. Donc, tous les enjeux par rapport au fait de faire de l'argent sur un milieu qui était en mutation totale avec l'arrivée des réseaux sociaux, avec les grands groupes de presse qui de renouveler la presse féminine parce qu'ils avaient bien conscience qu'il y avait des trucs à faire et que toi, tu peux pas avancer aussi vite qu'eux parce que t'as pas les mêmes moyens. Du coup, il y a eu beaucoup de difficultés. Il y en a toujours aujourd'hui, 11 ans plus tard, mais... c'est là où t'apprends qu'en fait, un problème n'est pas un problème. Un problème est simplement... un problème est un problème, mais comme un problème de maths. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un truc à résoudre. Et des fois, la solution n'est pas celle que tu penses qu'elle est. Mais du coup, c'est une mutation, un pivot, comme on peut dire dans l'entrepreneuriat. Et en fait, j'ai adoré me dire que finalement, tous ces challenges qui se passaient pas comme prévu ou ces déceptions qui pouvaient croiser ma route ou bien ces trucs... Je disais putain merde et tout machin que tu peux considérer comme des sortes d'échecs au premier abord sont en fait des redirections vers des choses chambées auxquelles t'avais pas pensé, des idées meilleures, des opportunités encore plus cool et finalement en fait font partie de ton chemin et de ton parcours et du fait que ça ne se passe jamais comme tu l'as écrit, c'est jamais la ligne droite que tu as prévue, le business plan que tu as fait. Et dès lors que t'es à l'aise avec ça, tu comprends qu'il va falloir juste que tu sois très souple. Très fluide dans ta tête et te dire que voilà, ça se passe pas comme ça, c'est pas grave, je me baisse à droite, je me baisse à gauche, je m'adapte, j'essaye autre chose. Il faut cette souplesse d'esprit. Donc, c'est un bon training mental.
C'est sûr. Qu'est-ce que c'est pour toi réussir sa vie?
Pour moi, réussir sa vie, c'est En fait, déjà, réussir à comprendre ce qui te fait du bien, ce qui te rend heureux, parce que déjà, c'est le premier step, c'est de comprendre ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Souvent, quand t'es jeune, tu sais pas forcément ce que t'as envie de faire. Et le plus difficile, c'est de se dire, qu'est-ce qui me rend heureux dans mon quotidien? J'ai une petite sœur qui a 22 ans, 23 ans, et je lui disais, et là, elle est partie sur un cursus professionnel, elle se rend compte que peut-être c'est pas ça et tout, parce que c'était tout tracé pour elle, et finalement, ça se passait très bien et tout. Et je lui dis, en fait, dans ton quotidien, les choses doivent pas être compliquées. Ça doit pas être dur. Si c'est dur, c'est qu'en fait, c'est pas naturel. Donc, en fait, faut trouver là où c'est fluide. Et là où c'est fluide, c'est là où ça te fait du bien. Donc, en fait, déjà, éliminer tout ce qui te fait pas du bien. Et donc, du coup, de dire déjà tout ce que tu n'aimes pas. Ça permet d'éliminer plein de trucs. Et de t'orienter plus vers ce que tu aimes. Et une fois que t'as pointé le doigt sur ce qui te fait kiffer, vraiment, que tu aimes faire, et tu pourrais faire ça jour et nuit, tout le temps, et ça te rendrait heureux. Et bah, c'est réussir à atteindre l'objectif, que ce soit ton job qui te fait vivre, en fait. Et pour moi, la réussite, c'est ça, c'est de dire, je fais ce qui me rend heureux tous les jours. Et c'est la liberté. Et c'est ça, pour moi, à réussir, c'est de se dire, j'ai réussi à identifier ce qui me rend heureux, ce qui peut changer, en plus, dans ta vie. Il y a des choses qui peuvent te rendre heureux pendant une décennie, et 10 ans plus tard, c'est autre chose, tu vois. Mais d'être capable d'identifier ça, donc c'est déjà le premier travail, et de réussir à faire en sorte que ce soit notre quotidien, tu vois. Et donc, pour moi, c'est pas associé à l'argent ou à un certain niveau social. C'est plus se dire, le matin, je me lève et je suis contente de faire ce que je fais. Ça donne du sens à ma vie. Je sens que j'ai un impact positif. Je suis dans la gratitude de la chance que j'ai de pouvoir avoir, de m'être trouvée et de pouvoir m'accomplir tous les jours au travers ce qui représente quand même un pourcentage du temps de ma vie qui est énorme dans le travail, quoi. Et je subis pas la life. Pour moi, c'est ça, réussir, quoi. C'est de pas subir. C'est de pas s'oublier, se mettre de côté parce que c'est le travail. Le travail, c'est associé à un truc négatif alors que ça devrait juste être l'accomplissement de soi, en fait.
Je suis d'accord. Tu aimes, ou tu aimais en tout cas, te projeter sur tout et avoir une idée de ce à quoi va ressembler ton avenir. Et comme pour beaucoup, la crise sanitaire a changé les règles du jeu et a bouleversé tes plans et le contrôle que tu avais de tes journées. Tu as écrit un article à ce sujet, alors je te pose la question ici.
Ouais.
Comment reprendre le contrôle de sa vie quand tout autour de soi semble incertain?
Et ben, au jour le jour. Pour moi, c'est ce qui a été génial avec ce confinement que j'ai extrêmement bien vécu. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais confinée dans un endroit qui m'est agréable. J'étais seule, sans une charge d'enfant. Il faisait beau à Paris. J'avais un petit balcon. J'avais de la lumière dans mon appartement. Donc j'étais dans des conditions que j'ai trouvé pour ma part idéales, ce qui fait que j'ai pu le vivre dans un gros bail de développement personnel et me poser les questions, des choses sur lesquelles, comme j'étais freinée dans mon activité professionnelle sur beaucoup de points, surtout d'un point de vue business sur Paulette, ça m'a forcée. Et puis, je devais lancer mon projet 11h11 de bien-être justement au mois de mars, normalement. Donc, tout a été ralenti, transformé, les plans. Et en fait, ça m'a appris à me rendre compte que, de manière générale, tu ne peux pas contrôler la vie et ce que les autres font. Tu peux juste contrôler ce que toi, tu fais. Et dans tes plans, c'est 50-50 pour faire quelque chose. Il y a la partie du chemin que toi, tu fais, et la partie que les autres personnes avec qui tu vas travailler ou avec qui tu dois accomplir ta mission, que ça soit tes clients, que ça soit tes associés, tes équipes et tout. Il y a ce que eux amènent pour que tu ailles au bout de ton projet, en fait. Et c'est le reste de la vie, quoi. Et le truc, c'est que dès lors que tu sais que tu n'as aucun pouvoir sur l'autre, en fait, tu acceptes que il y a que ce que toi, tu peux faire qui fera avancer les choses. Et donc, du coup, tu vis plus dans l'instant présent, parce que tu peux pas être dans la projection permanente, parce que tu ne maîtrises pas, et tu peux juste te dire, quelle est la petite chose que je vais faire aujourd'hui qui fait avancer le schmilblick, et puis, en fait, être dans la confiance du fait que si ça doit se passer, ça doit se passer. Et donc, du coup, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup développé ces dernières années ma spiritualité et ma foi, donc pas au travers une religion, mais plus au travers le fait de faire confiance à la vie, en fait, et de me dire que la vie fait bien les choses, que généralement même des choses qui sont très douloureuses nous amènent derrière à des transformations très positives. Et du coup, j'aborde la vie en me disant que quoi qu'il m'arrive, je vais m'en sortir et ce sera quelque chose de positif qui en sortira, et même dans des choses assez traumatisantes. Et je l'ai vu autour de moi, des gens qui ont vécu des choses affreuses, que ce soit des pertes, des deuils, des trahisons, des sociétés qui s'arrêtent aussi. Qu'en fait, ils ont toujours pu rebondir derrière quand ils avaient un spirit qui était dans la foi, en fait. Et rebondir encore plus solide et encore plus aligné, etc. Donc, aujourd'hui, pour moi, ouais, cette situation dans laquelle on est, où l'avenir est incertain, nous force à être moins dans une projection à long terme, plus court-termiste, court terme, moyen terme, et à se donner beaucoup plus d'indulgence, parce qu'en fait, on se met une pression de ouf quand on est tout le temps dans la projection du futur, en disant il faut que ce soit parfait, ça doit être comme ci, ça doit être comme ça, alors que quand tu fais des projections plus court-termistes, bah déjà c'est plus facilement atteignable. Donc du coup, la barre est un peu moins haute et finalement t'avances quand même. T'avances au jour le jour, mais t'avances. Ou à la semaine, si tu veux. Mais difficilement aux six mois, quoi. C'est plus difficile de se projeter à 6 mois. Donc, du coup... et puis, c'est une sorte... Finalement, ce qui est génial, c'est que ça t'enlève... Ça te donne une excuse pour te mettre moins de pression.
Oui.
Et c'est très bien, parce qu'on a tous la même excuse. Le Covid, c'est incertain, tout ce que tu veux. Donc, personne ne t'en voudra et pourra te faire culpabiliser ou te pointer du doigt, et même toi-même, puisque généralement, on est le pire juge pour soi. Si tu n'atteins pas tes objectifs ou ce que tu t'es fixé, parce que tu pourras dire, en fait, c'est la crise, c'est la merde. Il n'y a pas de contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur. Donc, mais au moins, j'ai essayé. Et j'essaye. Et ça m'a quand même fait avancer vers ci, vers ça. Et puis ensuite, j'ai pivoté parce que ça s'est pas passé comme prévu. Mais du coup, c'est arrivé vers une autre idée. Et du coup, t'es beaucoup plus indulgent avec toi-même. Et ça, c'est sur la charge mentale, et la pression qu'on se met quand on veut faire des choses, des projets. C'est quand même plutôt agréable, en fait. Moi, je décompresse de ouf, quoi. Je me détends, tu vois, grâce à ça, finalement. Je me dis, tu sais quoi, step by step, tranquille. L'esprit du Sud, tranquille, tu vois. Non, vraiment, vraiment tranquille. Donc, voilà.
Tu parles souvent de lâcher prise, donc c'est peut-être ce que t'es en train de nous écrire. Ouais. Et comment tu le pratiques au quotidien, ce lâcher prise? Est-ce que tu as des petites routines?
Bah, écoute, le lâcher prise, je le pratique de plein de façons. Déjà j'essaye de méditer. Je médite pas pendant le confinement. Je méditais tous les jours. J'avais une très belle routine d'hygiène de vie. Elle était merveilleuse. Bon, elle a très vite disparu une fois qu'on a déconfiné. C'est très dur. J'essaye de faire au moins une fois par semaine. Mais l'idée, ça serait de réussir à le refaire tous les jours, même si c'est que 5 minutes par jour, parce que c'est vraiment précieux. La méditation. Ensuite, c'est vrai que je soigne vachement mes mots. J'essaye de pas avoir de mots trop violents ou trop durs, parce que je trouve que les mots qu'on emploie, ils cristallisent des choses. Et du coup, c'est con, mais faire gaffe aux mots que t'emploies, c'est une manière aussi de balancer une énergie plutôt positive et bienveillante et tout. Donc ça, j'essaye de pas être dans la gravité dans les termes que j'emploie, en me disant que rien n'est une fatalité et que voilà. Et donc du coup, quand t'es pas dans la gravité, d'une certaine façon, tu lâches prise, parce que tu considères que rien n'est grave. Et après, ça va très très loin, parce que quand du coup tu parles de par exemple de la perte, de la maladie, de la mort, des choses comme ça, moi je rentre dans une réflexion qui va un tout petit peu plus loin en termes de spiritualité, de me dire que voilà, on est des âmes incarnées dans des corps physiques, et que du coup, si demain notre corps physique meurt, moi je crois en la réincarnation. Donc du coup, je pars du principe que notre âme n'est pas morte, et que du coup, c'est que ça fait partie de notre chemin lors de cette incarnation là, mais qu'il y en aura d'autres. Et du coup, évidemment, je dis ça, j'ai perdu ces 2 dernières années, j'ai perdu tous mes grands-parents, c'était assez dur, et en même temps, je me sens toujours connectée fortement à eux d'un point de vue purement énergétique, et des fois j'essaie de leur parler, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que du coup, ça me rend heureuse de me dire que c'est pas parce que leur corps n'est plus là, qu'ils ne sont plus physiquement présents, qu'ils ont complètement disparu, tu vois. Et en fait, du coup, c'est hyper intéressant d'aller explorer tous ces sujets-là qui sont un peu plus du monde de l'invisible, et c'est ce que je fais avec mon projet ESO, d'ailleurs, Paris. Et ça m'a beaucoup aidée à relativiser sur la gravité du matériel. Donc, ce que j'appelle la gravité du matériel, c'est ça se passe pas comme prévu, j'ai pas assez d'argent, j'en sais rien, mon corps, il est pas comme je voudrais qu'il soit. Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont de l'ordre du matériel. Alors qu'on est là aussi pour des échanges émotionnels, énergétiques, faire des missions qui ont un impact positif et tout. Finalement, c'est pas grave l'emballage, l'enveloppe, c'est des choses auxquelles il faut prendre soin, parce que c'est notre appareil de vie. Mais je veux dire, c'est pas ce qui compte le plus, quoi. Du coup, et c'est pour ça que je tends vers une tendance de vie un peu plus minimaliste. Je le suis pas, mais j'essaye de me dire que j'ai pas besoin d'avoir 1 million de fringues, de consommer mieux aussi. Enfin, dès que tu rentres dans ce spirit de dire que ce qui est important, c'est ce que tu fais, c'est l'échange, les interactions que t'as avec les gens, les rencontres, c'est l'inspiration qu'on peut se donner les uns aux autres, c'est le sentiment de se dire que ce qu'on fait dans notre vie apporte quelque chose de positif plutôt que le paraître. C'est plus l'être. Et quand t'es dans l'être, du coup, rien n'est grave tant que toi t'es aligné, que tu es la meilleure version de toi-même dans ce que tu peux être. Après, c'est très facile de tout d'un coup se laisser happer par l'anxiété, par la colère, par tout ça. Il faut pas les réprimer, mais d'essayer de se dire que voilà, on fait un travail sur soi au quotidien pour être quelqu'un qu'on aimerait avoir à nos côtés, quoi. Enfin, quelqu'un de bienveillant, qui n'est pas dans des sentiments toxiques, qui ne fait pas du mal aux autres, tu vois, et qui se fait du bien et tout. Donc, voilà, c'est tout mon travail. Mais ouais. Et du coup,
mais c'est
passionnant. Et je trouve que c'est chouette de le faire dès le plus jeune âge, en fait, parce que ça te donne de la force, ça te donne de la confiance en toi, ça te permet de prendre de la distance par rapport aux gens qui sont pas du tout là-dedans et qui sont souvent les personnes qui te drainent avec des énergies basses. Parce que, en fait, tu te rends compte que ce qui fait que quelqu'un est colérique, énervé, jaloux, envieux ou super négatif dans son quotidien, et on en a tous des gens comme ça autour de nous, et des fois des gens qu'on aime beaucoup parce que c'est nos potes ou c'est même le cocon familial et tout, c'est que, en fait, ça a un impact sur nous. C'est un impact énorme, en fait. Et du coup, prendre conscience de qu'est-ce qui te fait te sentir bien, quelles sont les personnes qui te font te sentir bien, quelles sont les activités dans ton quotidien qui te font du bien, et quelles sont, à contrario, tout ce qui te fait te sentir mal et tout, et bah, c'est de se dire, tiens, je vais me mettre le plus possible dans des conditions où je me sens bien, parce que c'est un cercle vertueux, après. Tu deviens, du coup, mieux, et toi-même, tu envoies du bien, etc. Et je sais que c'est très dur quand c'est dans le cocon familial où il y a de la toxicité, parce que du coup, bah, surtout au jeune âge, c'est difficile de s'en séparer et tout, mais du coup, faut apprendre à se mettre une bulle, réussir à se protéger. Évidemment, quand c'est vraiment, vraiment très violent ou toxique, bah oui, prendre les mesures nécessaires pour effectivement ne... en parler à des proches bienveillants, des choses comme ça. Mais c'est vrai que, voilà, prendre conscience de ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait pas du bien, et essayer de maximiser au quotidien les choses qui nous font du bien. Et ça, en fait, quand t'es dans une bulle de choses qui te font du bien, entouré de gens inspirants, te cultiver de contenu qui t'inspire, tu ne peux que toi-même aller dans cette direction-là, dans ton chemin personnel, en fait.
Je peux pas être plus en phase avec ce que tu dis. Et comment tu en es venue à t'intéresser à ce côté spirituel de la vie?
Ben écoute, moi, c'est vrai que comme je disais tout à l'heure, j'ai créé ma structure assez jeune.
Oui.
Et je suis quelqu'un d'assez hyperactive, qui est pas peur de me mettre 3 tonnes de trucs à faire, parce que je sens que je peux porter beaucoup de choses sur moi. Et en fait, Paulette, c'est vraiment un énorme challenge psychologique, mental, avec des vrais enjeux par rapport à ce marché où il fallait vraiment se renouveler, et puis il y avait très dur financièrement et tout. Et en fait, j'y ai été en mode sprint pendant très longtemps. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais négligé mon corps et mon esprit. Alors, je m'en rendais pas compte parce que je m'épanouissais énormément dans mon travail. Je travaillais comme une folle, mais comme c'était passionnant et que j'adorais ce que je fais et que j'étais alignée avec ma mission de vie, je me disais, c'est pas grave, travaille jour et nuit, ne te paye pas, vas-y, t'es jeune, t'as l'énergie. Et puis, comme je suis hyperactive, oui, j'avais l'énergie, en fait. Sauf qu'à un moment donné, tu te rends pas compte, mais t'as pris du poids, tu te sens vraiment très très fatiguée, alors que d'habitude t'es pas trop fatiguée, tu peux devenir irritable alors que t'es pas de nature nerveuse, et du coup tu te dis, mince, il y a un truc qui cloche. Et c'est vrai que à ce moment-là, j'ai commencé à me tourner vers la méditation, en me disant, ça va me faire du bien. Et puis suite à ça, d'autres choses, et tout le monde du bien-être qui est arrivé dans ma vie, je dirais, ouais, il y a 2-3 ans, tu vois. Et en fait, quand t'ouvres cette boîte, c'est infini, quoi. Tu te rends compte qu'en fin de compte, tu peux être très productive en passant beaucoup moins de temps à travailler. Tu te dis qu'en fait, remplir ta... On le sait tous, hein, la capacité de concentration, elle est extrêmement limitée. Moi, je crois beaucoup dans ce concept pour les gens qui sont salariés, en tout cas... C'est différent quand t'es entrepreneur, mais de se dire de faire des semaines de 3 jours de boulot et de réussir, en fait, t'arrives plus quand t'es focus à accomplir une masse de travail importante que quand c'est diffusé sur du long terme et tout. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises aux États-Unis qui fonctionnent comme ça. Enfin, c'est tout ça. Et moi, je crois beaucoup à ça, et d'avoir aussi beaucoup de temps lié au perso, en fait, au développement personnel, à faire des choses qu'on aime bien, à être en contact avec la nature, à prendre soin de son corps, à voir ses proches, aller se faire du kiff, des passions, du sport, de l'art, j'en sais rien.
Tu as lu La Semaine de 4 heures ?
Non, je l'ai pas lu. Ah. Mais c'est ce, voilà, c'est ce concept-là.
Ouais, ça rejoint tout ça.
Et c'est vrai que du coup, bah, je me culpabilisais beaucoup en étant entrepreneur parce que j'avais donné tellement en me disant, mais non, je peux pas donner moins, j'ai toujours tellement d'enjeux, c'est pas possible et tout. Et en fait, le déclic, je pense, ça a été quand il y a un an et demi, donc, c'était l'année des 10 ans de Paulette, en même temps, je lançais mon nouveau projet qui était Ezo. Et je me suis dit, mais putain, mais comment je vais faire pour gérer les deux? Je travaille déjà comme une folle. Et en fait, ça m'a forcé, du coup, à passer un chouïa moins de temps, parce que le temps que je passais sur les eaux, alors c'est pas énorme, mais je le passais pas sur Paulette, à me rendre compte qu'en fait, j'y arrivais quand même. Et puis ensuite est arrivée l'envie d'entreprendre ce troisième projet. Et en fin de compte, ça peut très vite te dire, mais comment je vais faire? C'est une charge de plus. Mais en fait, tu délègues, tu t'organises différemment, tu arrives à faire la part des choses de ce qui est urgent, ce qui est important, ce qui ne l'est pas vraiment tant que ça, tu priorises. Et en fait, c'est vrai que j'admirais beaucoup autour de moi. Moi, je suis pas maman, mais j'ai une de mes amies les plus proches, Cathy Closier, qui a créé le Season, qui est un restaurant à Paris, qui est donc maman de 2 enfants depuis longtemps et qui a eu plein de restaurants et qui est arrivée à gérer ses restaurants en même temps de ses enfants et en passant pas mal de temps avec ses enfants. Je me dis, mais comment tu fais? Moi, je peux pas avoir d'enfants, c'est pas possible et tout. Et en fin de compte, non. Tu t'organises, tu priorises. Tout d'un coup, les choses que tu gérais comme si c'était des priorités ne sont plus des priorités et tu avances quand même, en fait. Mmh. Et du coup, bah, j'ai géré mes autres projets en me disant ça. Et en fait, ça a fait pas défaut et je me mets moins cette charge mentale de me dire que j'ai pas le droit de faire une pause. Là, ça faisait très longtemps que j'avais pas pris de longues vacances et cet été, j'ai fait 1 mois de vacances. Et en fait, je suis trop heureuse d'avoir réussi à m'autoriser ça. Et surtout, ouais, je me suis pas culpabilisée là où avant je m'autorisais pas en fait. Et donc du coup, je fais des progrès. Et en fait, ça m'empêche pas d'être méga efficace. Et en 3 heures, je peux accomplir une charge de travail que des fois t'aurais pu faire en plusieurs semaines parce que t'en faisais un petit peu tout le temps et tout.
Et il fallait étaler. Voilà.
Exactement, exactement.
Ouais. Je suis aussi tombée sur un article Paulette qui m'a parlé.
Ouais.
Celui sur l'éternelle insatisfaction.
Ouais.
Comment tu pourrais définir ce cercle vicieux et qu'est-ce qui, selon toi, en est la cause?
Alors, il y a plein de raisons, il y a plein de causes, je pense. Bon, déjà, la manière dont on a été éduqué. Je pense si nos parents nous ont éduqués sur la notion d'excellence ou des choses comme ça, du coup, c'est comme un puits sans fin, quoi. C'est jamais assez parfait et tout. Ou si on avait besoin de prouver à des gens que... Et en fait, le truc, c'est que quand t'es dans l'envie de prouver, il y a toujours quelqu'un que tu convaincs pas et du coup, t'as l'impression que ça va jamais. Après, j'ai l'impression que ça dépend de ton état d'esprit. Justement, si t'es quelqu'un de positif, de base, de nature, tu te satisfais de peu, tu vois. Tu te dis que chaque petit accomplissement est une victoire et chaque chose qui s'est pas passée comme prévu est une redirection, est une leçon, est un apprentissage. Donc, tu ne peux pas être insatisfait chronique. Pour moi, comme je ne le suis pas, j'imagine que l'insatisfait chronique, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à trouver le bonheur dans les petites choses, en fait, et à qui on n'a pas dit c'est ok de pas réussir ce que tu t'étais dit tout de suite, et c'est ok que ça se passe pas comme prévu, et c'est pas grave si t'as une mauvaise note, ça veut pas dire que ta vie va être ratée, c'est pas grave si t'as pas ton bac, ça veut pas dire que tu vas pas pouvoir être heureux dans ta vie. Et en fait, c'est pour ça que je pense qu'il y a une responsabilité d'éducation. Après, il y a une personnalité qu'on se développe aussi de par l'éducation, l'héritage génétique, émotionnel qu'on a aussi quand on arrive et puis les gens dont on s'entoure, parce que pour moi, dans la vie, c'est très important, de la même façon que de réussir à pointer du doigt ce qui nous fait du bien au quotidien, d'avoir un cercle de personnes avec des énergies vertueuses. Donc ça veut dire, en fait, tu sais, il y a une petite règle qui dit tu deviens la synthèse des 6 personnes que tu vois le plus dans ta vie. Donc choisis-les bien. Oui. Donc si ces 6 personnes sont des personnes heureuses, qui ont réussi, enfin dans la définition de réussite que je te parlais tout à l'heure, tu vas être comme eux, en fait. Oui. Parce qu'en fait, on s'imprègne des gens dont on s'entoure le plus. Et par contre, si tu prends des gens qui sont tout le temps négatifs, qui se plaignent en permanence, qui n'arrivent pas à mettre le doigt sur ce qu'ils ont envie de faire dans la vie et qui du coup sont tout le temps pas satisfaits de ce qui leur arrive et tout, tu vas devenir comme eux, en fait, parce que c'est communicatif dans les deux sens. Et du coup, pour moi, ce qui est essentiel, c'est de, même si c'est un tout petit cercle finalement, les gens que tu vois le plus au quotidien, c'est de te rapprocher des gens qui ont ces énergies positives pour pouvoir t'en imprégner, t'en insuffler et voilà, aller dans la bonne direction dans ta vie. et te protéger de tout ce qui est toxique. Parce que même si la personne, tu l'adores, tu cernes les traits toxiques, les gens qui sont dans l'envie, dans la jalousie en permanence, dans la comparaison, dans le fait de parler mal des autres personnes. Ça dénote de faiblesses qui leur sont propres, d'angoisse, de peur, de la sensation de pas être à la hauteur. Enfin, ouais, parce qu'ils sont, et c'est pour ça que du coup, ils vont dans l'agression, dans la négativité. Mais toi, tu n'as pas ces trucs-là forcément. Donc du coup, même si tu les as et que tu as envie de travailler dessus, en restant avec des gens qui, eux, n'ont pas envie de faire ce travail, tu t'enfonces dans ta tombe, quoi. Donc du coup, pour moi, ouais, faire attention à son cercle et aux gens qu'on fréquente le plus, c'est essentiel. De fou.
Tu dis qu'aujourd'hui, tu as foi en la vie.
Ouais.
C'est quoi avoir foi en la vie?
C'est se dire que tout ce qui se passe est parfait et tout ce qui arrive doit se passer et qu'on a notre libre arbitre d'action, mais qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et que du coup, ce qu'on doit vivre, on doit le vivre et on doit apprendre des choses et que même les choses les plus dures, la perte d'un être cher, la maladie, la perte de son emploi, ce sont des choses qui derrière te permettent de renaître toujours meilleur en fait. Et du coup, si tu acceptes le fait que tu ne peux pas tout contrôler, tu peux juste essayer de donner le meilleur de toi, il t'arrivera que des choses, au final, enfin, tu comprendras que la vie, elle est belle, en fait, et que tout ce qui t'arrive, c'est positif, en fait. C'est très dur, hein, d'entendre ça, j'imagine, surtout pour des, mais, en fait, pour moi, il faut être dans l'action, et dans le lâcher prise. C'est un savant mélange des deux. C'est-à-dire dire, j'ai mis les quelques briques, je mets les quelques briques au quotidien pour aller dans la direction de ce qui me rend heureux. Je suis dans l'action, mais j'accepte aussi que je peux pas tout contrôler et j'ai la foi, tu vois, j'ai la foi. Et en fait, et de prendre toutes les opportunités qui viennent à toi, d'essayer de les saisir, de dire qu'il n'y a pas de hasard, tu vois. Quand une personne te contacte pour te proposer quelque chose, quand finalement un truc n'était pas prévu s'annule, de pas s'arrêter au fait que ça s'est annulé, de se dire qu'en fait, peut-être ça s'est libéré pour autre chose qui va arriver derrière. C'est ça, avoir la foi, en fait. C'est de se dire, tout ce qui se passe, c'est pas des hasards et ça fait partie de ton chemin qui est un peu écrit. Tout ce que toi, tu dois faire, c'est mettre des pierres dans la direction de là où tu as envie d'aller, en fait. Et derrière, tout va se passer comme ça doit se passer et on a tous des leçons à apprendre. On est tous élèves de la vie, en fait. Donc, si tu comprends, tu prends l'humilité que tu dois avoir de te dire que je dois apprendre tous les jours sur moi et sur ce qui se passe et tu te positionnes comme quelqu'un qui a envie d'apprendre mais qui est optimiste. Et a priori, si tu l'es, bah, il va se passer que des trucs positifs. En fait, c'est un cercle vertueux de fou d'être dans la foi, en fait. C'est un travail, hein. Mais ça passe par effectivement éliminer la plainte permanente, la négativité, la comparaison, l'envie, la jalousie, tous ces trucs-là qui sont très toxiques, quoi.
Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien?
Eh ben, les gens qui vont au bout de leurs rêves, qui s'épanouissent, tu les sens libres, en fait. Et moi, quand je croise des personnes, j'en croise plein. J'ai la chance parce que bah mon métier, je fais beaucoup de rencontres en fait, et que ce soit quelqu'un qui soit aligné parce qu'il est dans une asso et qui fait ce qu'il a envie de faire et tu le sens, il est heureux. Que ce soit un artiste, que ce soit un entrepreneur, que ce soit quelqu'un qui est au sein d'une start-up qui est en train de révolutionner un nouveau modèle de consommation. Bah ça, moi, je trouve ça hyper inspirant parce que du coup, ça me continue de me dire j'ai raison d'être dans mon alignement, tu vois. Et après, c'est vrai que d'autres choses qui m'inspirent, c'est de voir, d'essayer de comprendre comment fonctionne la nature, le rapport à la science et à la nature, c'est des choses qui me passionnent vachement. Et je trouve qu'il y a vachement de trucs dont tu peux t'inspirer quand t'observes comment fonctionnent les animaux et la nature. Alors là, c'est un peu chez père, mais c'est vrai que des fois, faut juste revenir aux basiques. Tu vois, on est un être vivant sur la planète, en fait. Et on est des animaux, en fait. C'est juste plus évolué, mais c'est tout. Et du coup, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai toujours adoré les documentaires animaliers. Si j'avais pas fait ce que j'avais fait, je pense que j'aurais été dans l'univers de l'animal ou de la nature, en mode scientifique, qui sauve les dauphins, les requins, ou je ne sais quoi. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont très sensibles à la nature et aux animaux. Souvent, quand t'es jeune, d'ailleurs, ça t'appelle beaucoup, tu vois. Et parce qu'il y a quelque chose d'animal, on se reconnecte à l'animal, à la nature, on se sent lié en fait à tout ça. Et je trouve que c'est continuer de regarder des documentaires, d'essayer de comprendre comment fonctionne le monde végétal et animal, ça donne vachement d'inspiration, ça te reconnecte à la terre, au fait que tu fais partie de toute cette faune et flore, et ça te réancre là-dedans. Et du coup, ça te permet aussi de prendre un peu de distance par rapport justement au monde matériel, intellectuel, informatique, tout ça, où en fait, souvent, tu perds un peu ton instinct. Il y a quelque chose de très... tu deviens un peu formaté dans certains systèmes de travail, d'entreprise. Et en fait, c'est des choses qui te coupent de ton instinct animal et du coup, de ton intuition. Et pour moi, être connecté avec ses envies, c'est être aligné avec son intuition. C'est dire, je sens un truc, cette personne, elle est bonne ou pas bonne pour moi, j'ai envie de faire ci, j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de vivre là, j'ai pas envie de vivre là. C'était ton intuition, en fait, c'est ton instinct. Et du coup, y a rien de plus puissant que de reconnecter à son instinct. Et je trouve que c'est au travers de la nature que tu le fais le plus. Parce que du coup, t'es plus dans un environnement humain, technologique et tout, que tu sens maîtriser, alors qu'en fait, tu maîtrises pas du tout, qui te maîtrise en fait, hein, dont t'es juste un pion quoi. Et du coup, ouais, c'est cool de se remettre dans cet environnement-là naturel en fait, parce que ça te remet dans ton pouvoir de instinctif animal quoi.
J'aurais définitivement été en phase de A à Z avec tout ce que tu as dit dans cette interview.
Bah écoute, tant mieux.
Du coup, dernière petite question.
Vas-y.
Quel conseil tu voudrais donner aux jeunes aujourd'hui?
Eh bah, ben justement, développez votre intuition à mort. Ne vous laissez pas manipuler par les dires de « tu dois faire ci, tu dois faire ça ». C'est en fait, faites confiance à votre intuition, à votre instinct. Choisissez bien les gens dont vous entourez. Ça, c'est vraiment encore important. Soignez votre santé mentale, en fait. C'est-à-dire que tous les choix que vous faites professionnels doivent être intimement liés au fait que ça fait du bien à votre santé mentale. Et que vous vous sentez aligné dans tout ça, même si c'est à l'opposé de ce que vous pensiez que vous deviez faire et que la société vous avait fait croire que vous devez faire. Et si vous venez de milieux défavorisés et tout, dites-vous que tout est possible en fait, que c'est qu'une question de foi et de travail dans le sens, comme je disais, de mettre des steps dans la bonne direction, des briques dans la bonne direction de là où vous allez, de vous rapprocher des bonnes personnes où vous sentez qu'il y a des bonnes énergies. Là encore, c'est votre intuition. Tiens, cette personne, je sens qu'elle peut me porter, qu'elle peut m'aider, qu'elle a quelque chose de positif. Et s'il y a des gens qui viennent vers vous, mais vous sentez pas la vibe, n'y allez pas en fait. Et des fois, un job, tu peux faire un entretien pour un job, à l'écrit, sur le papier, il a l'air incroyable, le salaire est top en termes de statut social, c'est génial pour tes parents et pour tes potes, mais tu le sens pas. Tu sens que le manager, il va te rendre la vie horrible, qu'il a l'air toxique, etc. Vaut mieux aller vers un truc moins dans le paraître, mais plus dans l'être. Et ça, je pense que c'est hyper important parce qu'en fait, au final, vous aurez tout compris, quoi, et vous serez heureux. Donc, se faire confiance, quel que soit ton âge, je trouve que c'est hyper important. Et puis, l'instinct, c'est le radar de tout. C'est-à-dire que même quand tu fais un truc où tu sais pas où ça va aller, moi, quand t'entreprends et que tu fais des projections, mais donc là, elles sont limitées encore plus aujourd'hui, et c'est très difficile de se projeter, quand tu fonctionnes à l'instinct, tu te trompes pas, en fait. Et moi, je sais que j'ai toujours été très instinctive dans tout, parce que je suis un esprit, je pense, un peu créatif. Souvent, les gens très cartésiens, très mathématiques et tout, ils ont du mal à faire confiance à leur instinct parce qu'ils ont besoin que tout rentre dans des cases. Ça rentre pas dans les cases, ça les stresse. Du coup, ils contrôlent pas. Du coup, il y a la perte de la maîtrise. Donc, du coup, c'est pas possible. Et en fait, je pense qu'il faut une juste balance entre les deux. Mais l'instinct ne te trompe jamais. Et en fait, c'est facile l'instinct, comment tu testes, hein. Je te dis une question, réponse A, réponse B, tu réfléchis pas plus de 15 secondes, tu prends A ou tu prends B. C'est ça ton instinct. C'est pas le temps de mentaliser, c'est l'instinct. Qu'est-ce que te dit ton gut, tes tripes? Qu'est-ce que te dit tes tripes, gauche ou droite? Cette personne ou cette personne? Et c'est pas, tu dois réfléchir à, parce que j'ai cet élément sur telle personne, je me dirais que peut-être que... Non, ton instinct, pas ton mental. Donc écoutez plus l'instinct que le mental. Moi, c'est vraiment mon conseil numéro un, parce que c'est un putain de phare dans la nuit incertaine de tous nos choix de vie, et tu ne te trompes jamais à l'instinct. Vraiment, c'est la réponse, c'est l'instinct. Donc voilà.
Fabuleux. Merci beaucoup,
Hélène. Ben, merci à toi, et j'espère que ça aura pu guider certaines personnes, et en tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, à lire le magazine papier, ouais, parce qu'on fait beaucoup d'articles de fond. Il y a beaucoup de lectures dans Paulette, même s'il y a un peu de mode et d'art. Beaucoup de lectures sur des sujets pour déculpabiliser, sur les tabous qu'on n'aborde pas, autant dans la sexualité, dans la question de genre, dans les choix de vie professionnels. On essaye vraiment d'accompagner la génération à être alignée avec ses envies, quel que soit ce qu'on croit que la société nous dit qu'on devrait être. Et c'est vraiment ça la mission de Paulette, donc on est
là
pour ça.
Je mettrai tous les liens.
Super, trop bien, merci beaucoup.
Merci à toi. Ciao. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il t'a inspiré, rassuré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre.
suivre les aventures du podcast, je t'invite à t'abonner pour être informé dès qu'un nouvel épisode sort. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram avec le nom du podcast. N'hésite pas à m'écrire si tu veux me faire part de tes retours, de tes impressions et de tes conseils. J'y répondrai avec grand plaisir. Aussi, si tu as aimé l'épisode et que tu souhaites m'encourager dans l'aventure, tu peux me mettre une petite note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est un peu le truc chiant qu'on se dit qu'on ira faire plus tard, mais ça prend vraiment 2 minutes et ça m'aide beaucoup, beaucoup. Je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. En attendant, savons la vie comme il se doit et fais des choses folles.